Vous écoutez Radio France Internationale, 15h à Paris, 14h à Conakry et en temps universel. Allez au boulot, Florent Guignard pour le journal.
Merci Pascal Paradou, bon repos à vous. Il est 15h à Paris et à la une de ce journal, un couac lors de la troisième opération d'échange d'otages et de prisonniers entre Israéliens et Palestiniens. Le gouvernement Netanyahou suspend la libération de 110 Palestiniens après la libération de 8 otages de la bande de Gaza. Également, dans ce journal, on parlera du nouveau patron de l'Agence pour l'environnement aux États-Unis, nommé par Donald Trump, approuvé par les élus du Sénat. Il est proche de l'industrie fossile. Et puis, nous parlerons du début de la bataille pour la présidence du CIO, le Comité international olympique. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez C'est pas du vent avec cette question: sommes-nous réellement trop nombreux sur la planète ? Tout semblait bien se passer lors de la troisième opération d'échange d'otages entre Israël et le Hamas dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis 2 semaines. 3 otages israéliens ont retrouvé la liberté sous les cris de joie et les larmes de nombreux Israéliens. 5 otages thaïlandais qui travaillaient dans l'un des kibboutz pris pour cible par le Hamas le 7 octobre ont aussi été libérés. Puis, coup de théâtre, il y a une heure à peine, le gouvernement israélien a annoncé suspendre la libération prévue aujourd'hui de 110 Palestiniens. Pierre-Olivier, Israël récupère les otages et bloque la libération des Palestiniens. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais alors, le bureau de Benjamin Netanyahou indique que la décision de reporter la libération des prisonniers palestiniens est due aux conditions dans lesquelles s'est déroulé à la mi-journée le transfert des otages de Gaza vers Israël. Des images qui n'ont vraisemblablement pas plu au premier ministre israélien qui parle de scènes de chaos. Les scènes en question se passent au sud de la bande de Gaza, dans la ville de Khan Younes. On y voit notamment les otages israéliens escortés par des combattants du Hamas et du djihad islamique palestinien, Kalachnikov levé vers le ciel et casque sur la tête. Autour de ces mêmes otages, une foule compacte d'hommes, de femmes et d'enfants, appareils photo et téléphones portables braqués vers eux. Une fois à l'intérieur, des véhicules blancs de la Croix-Rouge, là encore, des images de foule agglutinée qui semblent ralentir l'avancée du convoi vers la frontière. Une atmosphère menaçante, a jugé Benjamin Netanyahou. Son cabinet exige donc que les médiateurs fassent en sorte que les futures libérations d'otages soient garanties en toute sécurité et sans foule, donc. C'est pourquoi l'échange avec les détenus palestiniens est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Des bus qui acheminaient vers Gaza les 110 prisonniers palestiniens retenus en Israël ont reçu l'ordre au dernier moment de faire demi-tour.
Pierre-Olivier du service international de RFI, le Qatar aux côtés de la Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad il y a presque 2 mois, avec la visite à Damas aujourd'hui de l'émir du Qatar, premier chef d'État étranger à se rendre en Syrie depuis la fuite de Bachar al-Assad, avec une promesse du Qatar, un objectif, la reconstruction de la Syrie. L'émir du Qatar a été accueilli par Ahmad al-Shara, le nouveau président de la transition syrienne, entré officiellement en fonction hier. La nouvelle donne en Syrie change aussi la donne pour les Kurdes, qui se sont enfin mis d'accord pour parler d'une même voix face au nouveau pouvoir à Damas, à Erbil. Lucas Lazo.
Pour Jadan Ali, porte-parole de l'opposition kurde syrienne et rencontrée à Erbil, il y a urgence à rassembler les différentes tendances politiques kurdes largement divisées depuis l'éclatement de la révolution en 2011.
Pour nous organiser en tant que Kurdes de Syrie, il faut commencer par réparer la maison kurde, avoir les mêmes positions, les mêmes revendications et nous faire ainsi une place à Damas alors qu'une nouvelle Syrie est en construction.
Un dialogue impensable il y a quelques semaines s'établit entre l'opposition en exil et le parti de l'Union démocratique qui administre le Kurdistan syrien. Jadan Ali souligne cependant un préalable, mettre un terme à la guerre qui oppose ce dernier à la Turquie.
La Turquie peut tuer 5 des nôtres à chaque fois que les Kurdes en tuent 2 des leurs. Nous allons tout perdre si la nouvelle constitution s'écrit sans nous parce que nous sommes en guerre. L'intérêt des Kurdes ne sera pas préservé tant que nous sommes en guerre.
Au-delà de préserver l'autonomie du Kurdistan syrien, une feuille de route commune entre ces factions mission devrait faciliter le retour des 300 000 réfugiés kurdes syriens en Irak.
Notre devoir, c'est de trouver une solution pour que notre peuple retrouve ses terres. L'exil n'est plus un horizon dans la nouvelle Syrie. Il faut que les foules soient de retour si les élections sont organisées. Comment pourraient-elles se battre pour leurs droits si elles ne peuvent pas voter ?
Mardi, un accord a été trouvé entre les différentes parties kurdes pour envoyer une délégation commune à Damas et négocier d'une même voix avec l'autorité de transition. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
RFI 15h05 à Paris. La France en mission diplomatique entre le Congo Kinshasa et le Rwanda. Le chef de la diplomatie française était ce matin à Kinshasa, où il a été reçu pendant une heure par le président Félix Tshisekedi. Jean-Noël Barrot a ensuite repris l'avion pour se rendre à Kigali, où il doit être reçu par le président rwandais Paul Kagame. De son côté, le Quai d'Orsay a publié un communiqué de soutien à l'intégrité territoriale de la RDC en appelant les forces rwandaises à quitter la RDC. Les services de secours sont pessimistes aux États-Unis après la collision en vol entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne commerciale à proximité de l'aéroport de Washington. Les deux appareils sont tombés dans les eaux glaciales du fleuve Potomac et selon le chef des pompiers, il ne devrait pas y avoir de survivants. L'avion et l'hélicoptère transportaient en tout 67 personnes à cette heure. 28 corps ont été retrouvés. Aux États-Unis encore, après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la nouvelle administration se met en place peu à peu. Et l'agence de l'environnement a désormais un nouveau patron qui a été approuvé hier par le Sénat. Il s'appelle Liz Eldin et de toute évidence, Juliette Pietraszewski. Sa nomination réjouit l'industrie fossile.
Nous sommes impatients de travailler avec lui, a en effet réagi le directeur de l'API, l'organisme qui représente le secteur pétrolier. Il faut dire que lors de son audition au Sénat le 16 janvier dernier, Liz Eldin avait fait quelques déclarations remarquées. Sa mission serait, je cite, à la fois de protéger l'environnement et de protéger l'économie. Selon lui, restreindre l'exploitation des ressources pétrolières des États-Unis, c'est un non-sens économique, une position dans la droite lignée de Donald Trump. Interrogé lors de son audition au Sénat sur des financements de campagne de la part de l'industrie du gaz et du pétrole, Liz Eldin a assuré que ça n'aurait aucune influence sur ses décisions. Il a quand même touché plusieurs centaines de milliers de dollars. Cette nomination fait donc grincer des dents les défenseurs du climat. Pour Climate Action Campaign, une coalition d'ONG environnementales, Liz Eldin protégera les pollueurs et non les Américains, avec une dépendance aux combustibles fossiles. Contrairement au dernier patron de l'agence de l'environnement sous Donald Trump, Scott Pruitt, climato-sceptique assumé, Liz Eldin a affirmé que le changement climatique était bien réel. Pas de quoi pour autant, Florent, rassurer les défenseurs du climat.
Juliette Pietraszewski du service climat, environnement de RFI. On va rester aux Amériques, à quelques mois de l'élection présidentielle au Chili. Le Parlement a adopté une réforme très attendue, réforme des retraites qui met fin au système mis en place sous la dictature du général Pinochet. C'était un système par capitalisation. Justine Fontaine, ce système était décrié. Donc 43 ans après, le Chili est revenu en partie sur cette réforme.
Oui, la loi a été largement adoptée grâce au soutien de la coalition de gauche au pouvoir et de la majorité des députés de droite. Après des manifestations gigantesques ces dernières années contre le système de retraite hérité de la dictature et après plus de 15 ans de tentatives de réforme, cette fois-ci, la nouvelle loi ouvre la voie au passage à un système mixte de retraite, public et privé, et réintroduit pour la première fois depuis Pinochet des cotisations retraite de la part des employeurs. Le président de gauche, Gabriel Boric, a salué dans la soirée une réforme historique.
C'est un très grand succès pour le Chili. Concrètement, cela va mener à la plus forte hausse du niveau des retraites depuis la réforme des années 80.
15 à 35% de hausse, en particulier pour les femmes qui ont les retraites les plus faibles. Aujourd'hui, plus de la moitié des retraites sont inférieures au seuil de pauvreté. Cela dit, la réforme n'est pas aussi ambitieuse que ce qu'avait promis le président. La capitalisation individuelle, avec des cotisations gérées par les très contestés fonds de pension privés, reste au cœur du système, malgré la nouvelle loi.
Justine Fontaine du service économie de RFI. À l'instant, une déclaration d'Emmanuel Macron après la dégradation d'une nécropole dédiée aux tirailleurs sénégalais dans la région de Lyon. Le président français parle d'une honte et d'une indignité. qui succédera à Thomas Bach à la tête du Comité international olympique au printemps prochain. C'est aujourd'hui que débutent les grands oraux des candidats. Ils sont 7 à briguer le fauteuil. Il est 15h10 à Paris dans un instant sur RFI. Vous retrouvez C'est pas du vent.